On a l'impression que la musique est très écrite et vos chants aussi. Et puis d'autres moments, effectivement, on nous a expliqué qu'il y a de l'improvisation. Comme on ne comprend pas ce que vous dites, c'est difficile à repérer. Mais quelle est la part justement de l'improvisation et de l'écrit que vous interprétez parce que c'est défini à l'avance?
Justement, la difficulté pour l'apprentissage de cette musique réside dans le fait qu'elle n'est pas écrite. Alors, comme nous travaillons sur des enregistrements de 78 tours, nous avons été obligés de chercher à connaître le système, enfin le fonctionnement de cette musique, et nous avons découvert qu'il y a en fait des modes, il y a une telle ou telle manière de jouer un mode, qu'il soit, comment dire, en fait, voilà, c'est très très simple. Il y a des pièces qui ont été composées, dont le thème a été composé. Il y a des pièces dont la trame est donnée et la part de l'improvisation est énorme. Mais c'est là tout le secret. Il faut beaucoup beaucoup d'entraînement. Il faut une grande connaissance des maqamat,
C'est-à-dire?
des modes ou des échelles modales et une grande pratique pour arriver à cette précision que vous avez entendue ce soir. Voilà.
Les textes que vous dites en chantant, ce sont des poèmes, vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est des poèmes anciens. Vous avez parlé d'un poème du Moyen Âge, par exemple?
Oui, bien sûr. Alors bon, c'était le dernier mois Shah, Lama Badaï Tathanna, qui veut dire quand mon bien-aimé a commencé à s'émouvoir. Bon, quand le bien-aimé que l'on compare souvent à la gazelle ou à la branche a commencé à se mouvoir, il a bouleversé mes sentiments, ou il a, en fait, selon la forme vocale, la qasida ou le mouachah. Le mouachah, par exemple, c'est un poème arabo-andalou où le thème traite souvent de l'amour. L'amour érotique, l'amour physique, mais dans un sens, l'amour dans un sens léger. Alors que le thème de la qasida est souvent à double sens. Il traite de l'amour, mais avec une ambiguïté entre l'amour mystique et l'amour pour l'autre, pour le bien-aimé. Donc, en fait, chacun y trouve son compte. Je peux vous donner, par exemple, un exemple. Pardon. Waqfatan ayyuha al-qamar natashaka fa hayati ala khatar fi hawaka. Halte, ô lune, que nous nous confions nos plaintes, car ma vie est en danger en t'aimant, dans ton amour. Donc, c'est souvent une poésie à double sens.
Lorsque vous improvisez, vous le disiez tout à l'heure, est-ce que les gens qui normalement vous écoutent et vous comprennent réagissent à ce que vous dites? Est-ce que vous leur parlez dans l'improvisation? Est-ce que le public peut réagir? Bon, bien sûr, nous ne comprenons pas ce que vous dites, alors c'est différent, mais si vous vous adressez à un public qui est arabophone.
Oui, bien sûr. Le chanteur ou l'instrumentiste, quand il donne une pièce, que ce soit une pièce composée où il doit énormément mettre de comment dire investir de lui-même dans l'interprétation, ou bien quand il improvise, il est de toute façon en dialogue avec le public. Et dans les concerts donnés en présence d'arabophones ou de gens qui connaissent le répertoire, et bien sûr les réactions du public sont là. Le public exprime sa joie, exprime son bonheur, parce qu'il se sent comment dire, interpellé par le musicien ou le chanteur, qui est en fait un guide, si vous voulez, dans ce palais du mode, du maqam. Donc, il se trouve être un guide emmenant avec lui l'auditeur et partageant avec lui cette promenade. Et c'est pour ça que l'auditeur réagit.
Que j'aimerais vous demander, Aïcha Redouar, c'est est-ce que cela fait partie de la tradition de la musique classique arabe, que ce soit les femmes qui chantent? Parce que la femme dans le monde arabe n'est pas particulièrement mise en valeur, mais on connaît Oum Kalsoum et vous chantez. Est-ce que c'est une tradition musicale que les femmes s'expriment par la chanson?
Oui, disons que la musique a toujours fait partie du milieu féminin. Autrefois, le milieu des hommes et des femmes étaient séparés. Par exemple, ce répertoire que nous jouons et interprétons était surtout masculin. Donc la plupart des pièces que je reprends ont été jouées ou interprétées par des hommes. Et ma manière aussi de chanter s'inspire beaucoup de la manière du chant des machaïrs, par exemple Cheikh Youssef Melaoui, ou le chanteur Cheikh Salam Hijazi, qui était aussi comédien, ou bien le chanteur Abdelhay Hilmi, ou bien Cheikh Saïd Safti encore. Je m'inspire beaucoup de leur manière de chanter, parce que ils ont eux-mêmes été formés dans la psalmodie coranique. Et la psalmodie du Coran donne, si vous voulez, une solidité sur, une certaine solidité à l'interprète, au chant. Par contre, en ce qui concerne le répertoire féminin, il existe, il est formé aussi de ce qu'on appelle la tartouqa, qui est une forme de chant plutôt léger, qui se constitue de refrain, couplet, refrain, couplet. Mais il y a un répertoire très très riche qui a été donné par les femmes. Et je ne pense pas que ce soit un hasard si je me suis attaquée à ce répertoire, parce que j'ai toujours été attirée par par la profondeur du chant. Et ce style chanté était surtout présent dans le milieu masculin.
Vous avez l'impression de faire un peu œuvre de pionnière en tant que femme reprenant ces chansons?
Vu de l'extérieur, ça peut être vu comme ça. Mais
de l'intérieur, parce que ce qui m'intéresse, c'est comment vous le ressentez et comment peut-être les femmes qui vous entendent quand vous allez chanter en Égypte ou ailleurs, est-ce qu'elles se disent « Ah, enfin, c'est des femmes qui chantent, une femme qui chante, au lieu que ce soit des hommes ?»
Il y a beaucoup de chanteuses dans le monde arabe, il y en a énormément. Mais des chanteuses qui s'attaquent à ce répertoire précisément, il n'y en a pas. Ceci dit, pour moi, c'est avant tout un plaisir personnel que de... Enfin, un plaisir personnel, c'est une passion. Donc, je pratique quelque chose qui correspond vraiment à ce que je demande à la musique. C'est vrai que les femmes qui m'ont entendu, les femmes arabes qui m'ont entendu, que ce soit en France ou dans d'autres pays, ont été honorées et elles me l'ont fait sentir. Et c'est un encouragement qui va dans les deux sens. Moi, je suis fière de chanter ce style musical et je le partage très volontiers avec mes amis EES.
Merci infiniment, Aïcha. Alors Aïcha Redouane, c'était malheureusement hier soir, vous ne pourrez plus la entendre en direct, mais il y a bien d'autres soirées magnifiques que vous pourrez découvrir lors de ce festival de voix de femmes. La prochaine soirée, c'est le vendredi 14 novembre à 20h30, où vous pourrez découvrir l'ensemble Continens Paradisi, qui est un ensemble d'art vocal italien et français au XIVe siècle. Et puis vous découvrirez aussi Béatrice Cramois qui vous propose des airs de cour français du XVIIe siècle. Il y a une soirée qui s'annonce magnifique, c'est la soirée du 22 novembre. Je ne sais pas pourquoi je vous choisis plutôt celle-là qu'une autre, parce qu'il y a encore bien sûr le mardi 18 novembre, le vendredi 21 novembre, le mardi 25 novembre. Mais peut-être est-ce par sa diversité qu'elle a attiré mon attention. C'est la soirée du 22 novembre. Vous pourrez tout à la fois entendre Toto la Momposina qui chante des chants traditionnels afro-colombiens. Ma Damba, qui elle nous fait découvrir des chants des griottes du Mali. Et puis Yongchen Liamo, qui est une chanteuse tibétaine exilée en Angleterre et qui nous fait découvrir des chants traditionnels du Tibet. Et puis une chanteuse bretonne, Annie Ebrel, qui elle, bien sûr, nous fait découvrir les chants a cappella de la Bretagne. Alors une soirée très diverse qui paraît très très attirante. Mais je vous propose maintenant de découvrir, ou de retrouver, parce qu'elle est très connue, elle, c'est Montserrat Figueres qui, elle, chantera dans ce festival de voix de femmes le vendredi 21 novembre.
Elle nous chantera des chansons de José Marín et du XVIIe siècle espagnol. C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. C'était Montserrat Figueras que vous pourrez découvrir lors du festival Voix de Femmes qui a lieu du 11 novembre au 25 novembre. Montserrat Figueras, vous pourrez l'entendre le vendredi 21 novembre à 20h30. C'est à la Cité Bleue, 44 avenue de Miremont à Genève. Si vous souhaitez réserver des places, et peut-être pour certaines soirées, il serait prudent de le faire, vous pouvez appeler à Genève le 22 738. 66 38, c'est le service culturel micro qui vous permet de faire des réservations. Voilà, alors tous les spectacles ont lieu à 20h30 si je ne me trompe pas. Je vous le disais en début d'émission, j'ai maintenant envie de vous lire l'appel qui est lancé par le réseau international de solidarité femmes sous loi musulmane. Peut-être avant cela, eh bien, je vous demanderai d'aller chercher un papier, un crayon, parce que tout à l'heure, après, à la fin de cet appel, eh bien, je vous lirai les adresses auxquelles vous pourrez vous adresser, puisque cet appel n'a pas seulement pour but de faire entendre quelque chose, mais a pour but aussi de vous faire faire quelque chose, c'est-à-dire d'écrire à des gens qui peuvent éventuellement faire intervenir pour que les choses soient différentes. Et tout particulièrement, alors, il y a un certain nombre d'adresses que vous devrez relever. Alors, je vous lis maintenant cet appel. Donc, l'appel a pour titre « Alerte pour les femmes afghanes ». C'est le réseau, je vous le disais, international de solidarité femmes sous loi musulmane, dont nous avons souvent parlé dans Remue Ménage, qui publie régulièrement des rapports sur la situation des femmes soumises aux lois musulmanes et qui fait également des appels pour des actions urgentes afin de dénoncer des exactions commises contre les femmes. Ainsi, le réseau des femmes sous loi musulmane a communiqué dernièrement une alerte qui émane des femmes afghanes elles-mêmes et qui, par le biais de l'association Sisterhood is Global, donc notre amitié de femmes doit être totale, et qui lance un appel à la solidarité internationale. Et je vous le lis. Les droits humains des femmes afghanes sont menacés. Le 27 septembre 1996, une partie importante de l'Afghanistan, dont la ville de Kaboul, a été prise par une faction militaire connue sous le nom de Taliban. Les femmes ont reçu l'ordre de rester chez elles. Elles ont été agressées et battues quand elles étaient vues dans la rue. Les écoles de filles ont été fermées. Le réseau des femmes afghanes, Afghan Women's Network, a été enjoint les organisations internationales des droits humains à concentrer leur attention sur ce moment critique pour les droits fondamentaux des femmes vivant et travaillant à Kaboul. La communauté internationale ainsi que les organismes des Nations Unies doivent aider les femmes de Kaboul qui vivent sous menaces quotidiennes de mort et subissent des violations constantes de leurs droits humains les plus élémentaires. Bien sûr que ce ne sont pas seulement, ça c'est moi qui rajoute, les femmes de Kaboul qui vivent cette situation, on le sait bien. Depuis le 27 septembre 1996, l'emprise des talibans s'exerce sur une immense partie de l'Afghanistan et c'est bientôt toutes les femmes de l'Afghanistan qui seront soumises à ces lois extrêmement rigides des talibans. Et ça va, bien sûr, c'est bien plus qu'extrêmement rigide, absolument scandaleuse. Quant au respect des droits de la personne. Alors voici les droits humains des femmes afghanes qui sont menacés. Premièrement, je reprends donc l'appel, le droit à la sécurité. Les femmes et les filles ne doivent pas être harcelées, kidnappées, soumises au mariage forcé, ni être forcées à mettre un vêtement uniforme par quelque autorité que ce soit. Lors des batailles précédentes à Kaboul en 1992 et 1993, les femmes subissaient déjà kidnapping, viols, mutilations et assassinats. Les autorités dictaient aux femmes comment s'habiller et harcelaient celles qui ne s'y pliaient pas. Deuxième droit à être respecté pour les femmes afghanes. Le droit à l'emploi à l'extérieur de la maison. À Kaboul, beaucoup de femmes travaillent dans des bureaux et les écoles. Elles ont le droit de travailler sans harcèlement et de partager les responsabilités avec leurs collègues masculins. Ce qui, on le sait bien, a été complètement supprimé à toutes les femmes. On leur a interdit désormais de travailler. Troisième droit, le droit pour les femmes et les filles à l'accès égal à l'éducation. Le vendredi 13 septembre 1996, deux jours après que les talibans eurent pris la ville de Jalalabad, ils ont déclaré que les femmes et les filles ne seraient pas autorisées à aller à l'école. À Herat, où les écoles pour filles sont fermées depuis septembre 1995 déjà, lorsque les talibans ont pris la ville, des cours pour les filles se sont organisés clandestinement dans les foyers. La même politique est mise en place aujourd'hui à Kaboul et ailleurs en Afghanistan. Alors pour protester contre le sort fait aux femmes afghanes, vous pouvez vous manifester en écrivant à des adresses que je vais vous donner. Mais peut-être puis-je rajouter quelques informations que nous connaissons encore à propos des femmes afghanes. Aujourd'hui, dans le cadre d'une émission de télévision, on pouvait découvrir que dans les hôpitaux de Kaboul, aujourd'hui, les femmes ne sont plus reçues, sous prétexte que les médecins devraient leur demander de se dénuder pour les soigner, donc elles ne sont plus acceptées dans les hôpitaux. Seul un dispensaire les accueille, mais un dispensaire qui n'a que 45 lits, alors que la ville de Kaboul a plus d'un million d'habitants. Voilà encore un autre exemple gravissime de non-respect des droits de la personne le plus élémentaire, puisqu'il est celui d'avoir accès à la santé. Alors, je vous donne les adresses en question. Vous pouvez bien sûr, l'adresse la plus évidente, adresser une lettre au secrétaire général des Nations Unies. Je vous donne l'adresse, New York, ensuite répétez N majuscule Y majuscule 117 États-Unis. Je répète, secrétaire général des Nations Unies, New York. Répétez N majuscule Y majuscule numéro de code 117 États-Unis. Vous pouvez aussi adresser une plainte, votre plainte, à l'ambassade de la République démocratique d'Afghanistan. 32 avenue Raphaël, 75016 Paris. Je répète, ambassade de la République démocratique d'Afghanistan. Il y a certains mots qui vous arrachent la bouche. 32 avenue Raphaël, 75016 Paris. Vous pouvez aussi écrire à Madame Rukia, R-U-K-I-A, je répète, Madame Rukia Hussein, ça s'écrit H majuscule U-2-S-E-N, trait d'union, Aden, comme ça se prononce, point focal pour les droits humains des femmes, je répète, point focal pour les droits humains des femmes, centre des droits humains, bureau des Nations Unies à Genève, Avenue de la Paix, 1211 Genève 10. Je répète, Madame Rukia Hussein Aden, point focal pour les droits humains des femmes, Centre des droits humains, Bureau des Nations Unies à Genève, Avenue de la Paix, 1211 Genève 10. Et vous pouvez toujours demander des nouvelles au réseau Femmes sous loi musulmane, en écrivant au réseau Femmes sous loi musulmane, boîte postale 23 34 790 à Grabels. Grabels, G-R-A-B-E-L-S. Je vous en parlerai tout de suite. Ce que vous entendez, c'est de la poésie Pashtun, une des ethnies d'Afghanistan, interprétée par des hommes, mais c'est le cas de l'enregistrement. Mais ce dont moi j'ai envie de vous parler, c'est ces poèmes lorsqu'ils sont chantés, composés par des femmes. D'ailleurs, celui que vous entendez à l'origine est composé par une femme, mais il est officiellement interprété par des hommes. Je vous en parle tout de suite.